Nous sommes le jeudi 14 novembre, il est
20h
02. 02
21h.
Vraiment ?
En plus, il est 21h 02.
Il est 21h déjà ?
Ça commence tellement bien.
Ah là 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 là. En même temps, tu me demandes de meubler alors que du coup, je suis pas prêt, tu vois, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'une organisation carrée.
Ouais, tu sers à rien sans nous dire que tu sers à rien.
Ah ben je peux dire que je sers à rien, c'est pas un problème, mais si tu faisais ton boulot, ce serait quand même plus simple.
Ça t'ennuie de respecter les gens et de présenter correctement l'émission ?
Oui. Visiblement, oui. Est-ce que je peux dire maintenant ce que je dois dire ou pas ?
Quand tu veux.
Bienvenue dans le nerf de la game.
Pire intro.
Le nerf de la game, l'épisode qui aborde le
Mission.
Monde du... Hein, j'ai dit épisode ?
On n'en est plus là.
D'accord.
Non mais
reprends, vas-y, coupe, on va enregistrer, on va reprendre...
On est en direct, monsieur.
Pardon, le nerf de la game, l'épisode. Quoi ? C'est bien l'épisode ?
À deux fois, hein.
Mais quoi ? Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut, Julien.
Bonjour, je suis arrivé à la bonne semaine, je crois.
C'est clair. Ça me fait plaisir de te revoir, Julien.
Mais moi aussi, ça faisait quoi, 3 ans ?
Ça fait au moins ça, au moins 3 ans. Ma vraie question, Julien, c'est qu'est-ce que tu fais là alors que tu es censé jouer à Satisfactory ?
Je pourrais jouer à Satisfactory, mais je préférais parler d'Arcane avec toi.
Tu mens. tu mens très mal. Salut Romain.
Salut Xavier. Salut Julien.
Comment vas-tu ?
Bah écoute, ça allait bien jusqu'à environ 3 minutes. Et puis on a commencé l'émission.
Bon, allez, on va remettre ça sur...
On est tellement bien parti, on peut pas faire pire.
On peut pas faire pire. Allez, on va remettre ça sur des rails à peu près corrects.
De quoi on parle ce soir ?
Eh ben, ce soir, on va parler d'une game jam consacrée aux violences routières.
Absolument.
Mais juste avant, on va parler... J'aurais bien parlé de pourquoi tout le monde voulait que Dragon Age Velgard se plante, mais ce sera une autre fois.
Ouais, parce qu'il y a encore, à mon avis, encore des choses à voir venir sur le sujet.
Très bien.
Il y a un vrai sujet, mais il n'est pas encore complètement au mur.
On n'a pas déjà tout vu ?
Deux.
Justement, sur Velgard et les prises de position, parce que c'est toujours les mêmes positions, les mêmes prises de position débiles de... Oh là là, il y a les gens qui sont fans de BioWare qui disent « Oh, le jeu est génial, yanana », et les gens qui disent « Oh, ce jeu est trop woke, vous nous faites chier ».
Oui, ouais, mais t'as des gens qui se déclarent fans de BioWare et qui disent que le jeu est trop woke et qu'avant c'était mieux parce que BioWare c'était pas woke avant, alors que t'as les gens de BioWare qui disent « Bah si, on a toujours fait des jeux comme ça, vous êtes des touristes ».
C'est juste des gens qui ont fait le Gamergate, ça.
Oui, oui, on est d'accord. Mais c'est ça qui est rigolo. C'est que c'est des gens, on les entend de plus en plus. Et c'était un bon moyen en fait d'en parler.
Et ben peut-être qu'on en parlera plus. Écoute,
quand j'aurais pris le temps de regarder un peu plus de réactions. En fait, surtout c'est parce que j'ai vu de plus en plus de gens qui avaient eu le temps de finir le jeu et qui avaient eu le temps en fait de revenir un petit peu sur les vraies qualités, les vrais défauts du jeu aussi, et de voir à quel point tout ce discours autour du contenu qui serait effectivement suivrait un agenda, un discours, etc., qui voudrait nous imposer effectivement une vision de certaines choses, représente en vrai une toute petite minuscule partie du jeu, et que bah, comme d'habitude effectivement les gens avaient juste envie de cracher sur de masquer leur transphobie et leur homophobie derrière c'était mieux avant et c'était vraiment mal écrit.
Et ben voilà. Écoute, on essaiera d'en parler bientôt,
voilà.
Mais dépêche-toi, je te rappelle que l'investiture c'est le 6 janvier. le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est donc Arcane, ou plus précisément Arcane, la série animée que vous connaissez peut-être tous, qui est basée sur le jeu League of Legends. Mais on va pas parler de comment ça marche grave sa race, que tout le monde en parle, que ça bat des records de vues un peu partout dans à peu près tous les territoires sur lesquels Netflix est. On va plutôt parler de comment Riot Games s'est ruiné en fait en faisant Arcane malgré son succès. En fait, avec le succès retentissant de Arcane sur Netflix, Riot Games en fait vraiment rêvait de révolutionner l'industrie du divertissement, et malheureusement les ambitions du studio se sont heurtées aux réalités de la production hollywoodienne, ce qui s'est traduit par jeter de l'argent par les fenêtres et de façon industrielle. En fait, le truc, pour rappeler qui est Riot Games, en fait, c'est vraiment un empire. On peut pas dire les choses autrement. C'est un empire de l'univers, dans l'univers du jeu vidéo. Un empire créé avec un jeu qui s'appelle League of Legends. Un jeu qu'ils ont créé de toutes pièces, qu'ils ont pas du tout pompé sur quelqu'un d'autre. Mais c'est un jeu d'arène en bataille free-to-play qui attire des millions de joueurs chaque mois et brasse des milliards de dollars de recettes, et surtout grâce à une fanbase dévouée et probablement la pire fanbase du monde en termes de réputation. Est-ce que vous serez d'accord avec moi là-dessus ?
La pire, c'est vrai qu'on est sur une fanbase, leur mot, très cancer.
Ouais.
Qui a une très mauvaise réputation depuis longtemps, même si Riot Games dit en tout cas faire des efforts pour purger cette base ultra toxique à coup de ban de 30 ans pour vraiment fermer les comptes qui sont mauvais. Mais comme ces gens-là sont autorisés à refaire des comptes derrière, en fait, ils redeviennent mauvais et ça ne change pas.
Mais d'ailleurs, je pense que le meilleur plan qu'a utilisé Riot pour que League of Legends soit moins cancer, c'est de créer Valorant qui est encore plus cancer. Bravo à eux.
On a la communauté qu'on mérite.
Moi, c'est marrant parce que je me rends pas bien compte. Moi, je viens de Counter-Strike. La communauté Counter-Strike, qui est déjà bien violente. Hein.
Ah, ça va.
Et quand j'ai passé des heures, des milliers d'heures dessus.
Ah, mais Counter-Strike, j'ai appris le russe comme ça.
Oui, aussi.
Pas les meilleurs mots.
Non,
pas les
meilleurs mots. Les trois mêmes en boucle.
Entre Counter-Strike et les jeux variés de Riot Games, puisque
c'est vraiment hardcore.
Mais c'est ça qui est fou, c'est que de venir de Counter et se dire qu'il y a pire.
C'est vraiment.
Je suis pas allé voir.
Et pourtant, on pourrait parler de la commu en ligne de Call of qui est bien sympathique elle aussi.
Pour expliquer juste un petit peu le contexte, donc c'est le principe d'un MOBA 5v5, c'est que vous jouez en équipe de 5 contre une autre équipe de 5 personnes. On peut pas jouer tout seul. Mmh. Le principe d'une équipe de 5 personnes, c'est de communiquer. Il se trouve que c'est tellement un enfer de communiquer avec sa propre équipe. Et on se fait tellement pourrir à chaque fois qu'on fait une erreur que le jeu propose de ne pas voir en fait les communications internes à son équipe.
Oui, parce que c'est
ce qui va complètement à l'encontre du principe même du jeu d'équipe.
D'ailleurs, League of Legends n'est pas disponible sur Switch ou sur une console Nintendo. Je demande bien pourquoi.
Mais eux, ils n'ont pas fait comme certains jeux en ligne où tu peux communiquer de façon efficace, mais uniquement avec des phrases prédéfinies.
Tu communiques avec Discord.
Le seul truc pas vulgaire qu'il existe dans LOL, c'est un système de ping où on peut pinguer la carte en expliquant, en quelque sorte, en indiquant un danger à ses alliés. Ce système de ping est utilisé à raison d'environ 20 par seconde pour souligner que quelqu'un fait de la merde.
Ok.
Voilà, donc même avec les mécaniques pas cancer, les gens arrivent à faire de la merde avec et à devenir chiants avec.
Ouais.
Donc ils ont mis en place des mécaniques pour mute ces gens-là, mettre en sourdine ces gens-là et encore une fois pourrir le principe du jeu d'équipe.
Et en fait, si on connaît tous ces principes-là, c'est parce que c'est pas 3-4 personnes dans leur coin qui jouent à League of Legends, c'est un nombre de gens absolument immense. C'est le premier e-sport, le jeu vidéo qui est le plus, même pas, je vais pas dire forcément pratiqué, parce que je pense que FIFA est devant en termes de pratique.
Voir Fortnite,
FIFA, c'est pas un des premiers jeux, malgré ce qu'on pourrait croire, les premiers jeux pratiqués qui
Madden,
sont quand une.
Ou Touquet.
Plutôt les Fortnite.
Ouais.
Roblox.
GTA Online. Moi je parle de façon compétitive.
Compétitive.
C'est pour ça.
T'as des gens qui font de la compétition sur Fortnite.
Pour le coup en compétitif, malgré le nombre assez flippant de, enfin vraiment énorme de gens qui jouent sur, sur Fortnite en compétitif. Je crois que c'est sur FIFA qu'il y en a le plus de déclarés, et après sur LoL. Mais c'est juste parce que, en fait, en termes de compétences et ce que ça demande en organisation, c'est largement au-dessus. Hein, vu que, comme tu le disais, tu joues pas tout seul, il faut jouer en équipe, il faut t'organiser, etc. Ça se fait pas comme ça.
Les Worlds, donc les championnats du monde de LoL, sont organisés une fois par an. C'est vraiment une très très grosse cérémonie, c'est des énormes budgets, c'est pour ça que c'est le premier e-sport de l'année à chaque fois. Et les récompenses, les premières places sont prises par les équipes coréennes et les équipes chinoises, parce que c'est des équipes en fait qui font plus qu'un travail. Vous vous doutez même pas, quand on dit que l'e-sport est un vrai sport, l'engagement que ça implique pour les équipes est démesuré.
Un sport professionnel.
C'est absurde.
Quoi. C'est du professionnel.
Enfin, oui, c'est-à-dire que.
Il y a des footballeurs qui s'entraînent moins qu'eux.
Oui, il y a au-delà de. Mais en fait, au-delà du côté, ils s'entraînent comme des fous et sous, il y a aussi, exactement comme dans d'autres sports professionnels plus classiques, des systèmes de détection, des systèmes d'école, des systèmes de championnat, des systèmes de championnat, des systèmes et puis aussi des mercatos aussi entre les équipes, et qui sont retentissants, avec des effets retentissants où ça crie de partout. Et si vous pensez que la carrière d'un joueur de football professionnel est relativement courte en moyenne, sachant que c'est à peu près entre 10 et 15 ans, dans l'e-sport, on est plutôt à 5 ans en moyenne.
C'est ça, c'est
par
à
exemple,
peu près ça.
Et 5 ans. Et par exemple, c'est pour ce qui fait qu'un personnage comme Faker, qui est là depuis quoi, 10, 15 ans
ouais, bien 10 ans, et qui est c'est toujours à un niveau
voilà,
incroyable.
En gros, c'est le gars, il a le niveau de, pour prendre l'équivalent d'un foot, c'est le niveau d'un Zidane, mais qui restait 10 ans d'affilée. Alors que tout le monde, en général, tu as ton pic et l'année d'après, c'est terminé. Donc,
c'est un peu ça.
Je fais le rapprochement avec Hunter. Une scène e-sport professionnelle que je connais un tout petit peu plus. On a un Apex, par exemple, en France. Qui est donc chez Vitality, qui est présent depuis plus d'une dizaine d'années, qui gagne encore des majors, qui gagne encore les plus grandes compétitions actuellement avec son équipe, qui avant était entièrement française, aujourd'hui qui s'internationalise un peu plus. Mais oui, c'est effectivement très rare. La plupart du temps, on est sur des gamins.
1-2 ans.
Qui sortent à 16-17 ans, qui apparaissent plus ou moins à ces âges-là.
À 20 ans, c'est la retraite.
Qui tiennent jusqu'à. Oh, un peu plus quand même. Jusqu'à 23-24, ouais, t'es encore
à 20 ans,
au top,
ça, les réflexes commencent déjà à baisser, en fait.
Oui, je sais bien. Mais après, ça dépend des jeux. Effectivement, tu as des jeux où les réflexes ont évidemment énormément d'importance, mais où le game sense peut quand même faire ta façon de jouer, ta façon de comprendre les choses, d'anticiper. L'expérience peut peut te permettre de compenser pendant un temps. Je pense que dans le cas de Faker, c'est beaucoup ça, en fait.
En tout cas, quelqu'un qui
maîtrise tellement le jeu que les réflexes, il les a suffisamment encore. Et il compense par le reste, par sa connaissance.
En fait, on le voit justement dans les commentaires des championnats de LoL. C'est mon péché mignon. Je ne joue plus à LoL depuis des années parce que c'est un enfer et que je n'ai pas le temps que ça demande pour ça. Mais je suis toujours en fait les Worlds de LoL et c'est toujours un plaisir à regarder en fait. Et les commentateurs sont à chaque fois un peu abasourdis par la capacité des vieux joueurs à compenser leur manque de réflexes
par leur vision,
par leur lecture de jeu, et par
comme dans d'autres sports plus stratégiques,
un jeu de sport,
ça va être le cas au rugby, quelqu'un qui est plus vieux va permettre de lire les situations en avance,
c'est
et
ça.
De mieux se placer, de faire la bonne attaque ou la bonne défense au moment, quoi.
Par exemple, la SKT a gagné cette année. Et on s'accorde à dire que c'est grâce à Faker et à la lecture du jeu pendant la finale. Voilà.
Faker, incroyable. Pour revenir sur Riot Games, qui justement grâce à ses Worlds, grâce à League of Legends, grâce à ses championnats, grâce à tous les gens qui regardent, qui jouent, gagne un pognon de dingue.
Rappelons que le jeu lui-même est gratuit.
Oui.
Gratuit, mais avec des systèmes de microtransactions, vous pouvez dépenser de l'argent pour acheter de la monnaie en jeu qui vous permet de débloquer des skins. Rien de mécanique ne s'obtient en jeu. Et enfin voilà, vous achetez juste du cosmétique.
Oui, oui, comme Counter.
Tout à fait, qui depuis pas si longtemps, hein, au final. Counter a eu une très très longue vie en jeu payant. Ouais. Mais est passé depuis quelques années, 5 ans, 6 ans, en gratuit.
Beaucoup de jeux compétitifs, au final, comme la plupart des jeux compétitifs d'ailleurs, le modèle c'est vraiment du gratuit avec des skins, enfin avec des.
Des microtransactions de cosmétiques.
Des microtransactions cosmétiques qui vont pas t'aider à mieux jouer.
Non, parce que je pense qu'en vrai, il n'y a personne qui a réellement essayé hein, de te vendre du free to, du pay to win et y arriver, tu vois, et survivre dans le mode compétitif.
Ah oui, d'accord.
En multi, il y en a. Hein, t'as les Payday 2, par exemple, qui te vendaient des trucs pay to win, qui t'apportaient des vrais avantages en jeu quand tu achetais.
Les MMO, c'est compliqué.
Pour le coup, pas du tout le modèle de Riot qui vend du free to play et pour justement. Va beaucoup se concentrer sur son lore et sur les personnages en les détaillant à mort, à fond, mm-hmm. pour justement aussi conserver les joueurs et les en attirer de plus en plus. Et s'il y a autant de personnages différents, c'est pour avoir plein d'archétypes différents pour qu'il y en ait au moins un dans l'eau t'aimes et même plusieurs dans l'eau que tu kiffes.
Il faut surtout dire en fait que la logique de Riot, pour revenir au point Arcane, c'est ils sont surtout depuis quelques années dans une logique cross-média.
Oui.
Où avec ce lore, avec tout ce qu'ils ont déployé en termes de personnages, d'univers et d'histoire, ils peuvent s'essayer à d'autres choses. Ils peuvent passer la frontière du jeu vidéo. Alors ils ont fait plusieurs jeux vidéo basés sur l'univers de Runeterra, donc le monde où se passe League of Legends. Et ils ont notamment TFT, qui est un jeu de teamfight stratégique tour par tour. Ils ont League of Legends. Et ils se sont essayés à la série avec Arcane, qui a été, en termes de consensus, de critique, on va dire, artistique, le consensus est que c'est de la bombe. C'est incroyable. Mm-hmm. On a rarement vu une série animée de cette qualité-là. Studio français. D'ailleurs, dont j'ai bouffé le nom, mais tu...
Fortiche.
Montpellier, non ?
Paris.
Voilà. Ah, ok. Je croyais.
Montpellier, il y a avec les gens du B qui font ça.
Et donc,
Coucou Michel.
Du coup,
c'était gratuit.
Traite bien tes équipes, hein,
surtout. Ils ont justement essayé de faire du cross-média avec ça. Et mon point aussi, c'est, vous l'avez probablement entendu dans cette émission, Riot Games, ça appartient à Tencent.
Oui. Et donc c'est pour ça qu'à un moment il y avait aussi alors j'ai dit totalement pognon de dingue, je peux aussi dire vu que tu as parlé de Tencent, j'ai le droit de dire argent magique aussi.
Faut bien que quelqu'un fasse les transitions aussi, hein.
Et oui, mais c'est ça qui est marrant, c'est que les mecs gagnent déjà tellement d'argent et en plus de ça ils ont le cheat code derrière pour avoir plus d'argent si besoin, tu vois.
Et donc,
mais du coup ils ont quand même réussi, je reviens sur ton introduction de tout ça, ont réussi à se ruiner.
Alors ils se sont pas ruinés, c'est pas la fin de Riot Games, mais par contre, il faut voir combien coûte normalement une série animée, il faut voir combien a coûté Arcane. En fait, le principe c'est que en 2019, l'éditeur il s'est lancé dans un projet ambitieux, conquérir Hollywood et décliner son univers, comme tu le disais Julien, en série et en film d'animation pour aller au-delà uniquement de partie jeux vidéo, contre l'avis d'ailleurs de pas mal de gens à l'intérieur de la boîte. Avec la première saison d'Arcane diffusée sur Netflix en 2021, Riot semblait vraiment avoir trouvé la formule gagnante. On le découvrira plus tard, mais globalement, Arcane est un miracle. Il n'aurait jamais dû être aussi bien. Il n'aurait jamais dû aussi bien au vu des conditions dans lesquelles ça s'est fait. En plus, la série a été récompensée par 4 Emmy Awards, un succès mondial et a confirmé l'ambition de Riot de devenir un acteur majeur du divertissement télévisuel. Et malgré les annonces, et malgré une équipe de production renforcée par des experts venus de Disney et de Netflix, Arcane, ça reste actuellement l'unique succès cinématographique de Riot. Parce que, d'ailleurs, on a appris, il n'y a pas très longtemps, que la seconde saison, qui est diffusée là depuis le 9 novembre, c'est la dernière saison. Alors qu'à la base, ils avaient communiqué sur le fait que ce serait un truc en 5 saisons. Finalement, il n'y en aura que 2, parce que, en fait, entre les coûts astronomiques et les projets avortés, le parcours de Riot à Hollywood, ça ressemble plutôt à une longue succession de mauvais choix. Mmh. Ça a été bien renseigné par un article dans Variety, qui a révélé que Arcane avait coûté la bagatelle, entre les coûts de production et de marketing, quelque chose comme $300 millions pour 18 épisodes.
Ce qui est cher, ça.
Il n'y a pas.
Oui, non, il n'y a pas d'équivalent.
Je vais être clair, 300 millions de dollars, il n'y a pas un film. Les rares films qui ont autant de budget, ça doit être les Avatars de Cameron.
C'est deux fois plus que Final Fantasy, les créatures de l'esprit, qui avait été de l'animation art déjà très très cher.
Déjà
très
à l'époque, il y avait quasiment. Qui aurait pu ruiner Square Enix à l'époque. Hein. Donc, non, c'est extrêmement cher.
C'est plus que ce que vous imaginez dans toutes les séries que vous avez regardées.
En gros, toutes les séries animées que vous avez vues, je pense, vous les rassemblez, ça fait ce prix-là. Globalement, pour avoir des prix équivalents,
se sont pris pour Rockstar.
En fait, c'est simple. Prenez les deux films, même les trois films vu qu'on a les budgets, les trois films Spider-Man, Spider-Verse. Mmh. Qui sont déjà
en grande partie accompagnés d'images de synthèse et de c'est ça que tu veux dire?
Ah non, c'est surtout que en termes de coût de production, c'est quelque chose de très costaud. Okay. Parce que c'est des films cinématographiques avec une exigence artistique qui est vraiment assez élevée, avec globalement des charniers animateurs, j'imagine, derrière, parce que les conditions ont été ce qu'elles sont, et rien que ces trois là, on n'est pas à 300 millions. En rassemblant les trois. Donc, c'est pour te dire à quel point ça a coûté. On dit, mais comment ils ont fait pour que ça coûte aussi cher? Sachant que, oui, la série est magnifique, mais t'as pas l'impression qu'elle soit aussi trois fois meilleure d'un point de vue qualité graphique ou d'un point de vue qualité de scénario. Sachant que une qualité de scénario, entre guillemets, entre un bon et un mauvais scénario, il n'y a pas des millions d'écart, tu vois.
Non, mais ça doit être le budget pour avoir Imagine Dragons.
Si seulement. Enfin, ça en fait partie malheureusement. En fait, le truc, c'est que voilà. En fait, là, on est d'ailleurs sur Netflix. C'est une des trois séries les plus chères diffusées sur Netflix. Avec Arcane, en fait, ils ont voulu vraiment aller au-delà des écrans de PC. Et malgré ça, en fait, ce succès, l'ambition de Riot, en fait, elle a révélé ses limites dans l'industrie cinématographique. Parce qu'en réalité, la conception d'Arcane, elle a été ultra chaotique. Elle s'est faite en dépit des volontés des différents créatifs. Et globalement, si la série Arcane était aussi bien, c'est parce que, en gros, on a foutu la paix aux créatifs En fait, à force que les différentes directions au niveau divertissement, au niveau du top management donnaient des directions différentes et des ordres différents en fait à chaque fois, ça finissait par s'annuler. Et derrière, disait, on va faire ce qu'on veut et puis on verra bien ce que ça donne. Et globalement, ils ont vécu dans une bulle qui a permis de créer ça. Mais normalement, en fait, la manière dont ça a été créé, Arcane aurait dû être comme n'importe quel produit dérivé de ce type, c'est-à-dire un truc entre moyen et nul.
Rappelle-nous la période à laquelle la saison 1 de Arcane est sortie.
2021.
Oui. Est-ce que ça coïncide pas avec un énorme boom économique dans l'industrie du jeu vidéo, qui fait que on a laissé beaucoup plus de liberté.
Alors attention, en fait, parce que la production a commencé en 2019, et donc il y avait pas encore la production a commencé en 2019. Il y avait pas sous l'influence de
League. Riot avait déjà explosé à ce moment-là.
Oui, Riot était déjà ultra costaud à ce moment-là, pour le coup, ça c'est le côté libre, ça fait vraiment pendant le Covid. Parce qu'il y avait le management était beaucoup plus erratique à ce moment-là. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait.
Tu veux dire que l'absence de manager et le télétravail permet travail de qualité d'exister?
Alors, je ne sais pas si c'est un travail...
On peut en parler chez Ubi ou quoi?
Je ne sais pas si c'est un travail de qualité, mais en tout cas, a permis en fait d'avoir une créativité différente et des ambitions différentes. Mmh. Et surtout, une fois que l'argent était déjà passé... la série était passée et Riot avait certes des ambitions, mais pas assez pour dire c'est peut-être un petit peu trop ambitieux ce que vous faites, on va tout refaire. Ça coûte, parce qu'on a déjà dépensé beaucoup d'argent à ce moment-là.
Et du coup, on sait comment Riot a réagi au succès de la première saison?
Si je te dis Folie des Grandeurs, qu'est-ce que t'en penses?
J'en pense que si c'est pour annuler au bout de la deuxième saison, c'est complètement con.
Parce que en fait, le truc c'est que à l'époque, le il y avait deux PDG en fait chez Riot.
C'est souvent une bonne idée. En règle générale, hein, c'est toujours une très très grande idée.
Bah oui, d'avoir deux personnes qui
dirigent PDG, en même temps. Ouais, deux personnes qui décident.
Écoute, à Saint-Etienne, ça se passe bien. Et
C'est fini, ça, depuis, c'est fini depuis pas longtemps.
Ça s'est super bien passé.
Ça s'est très très bien fini. Non, mais je pense à Napourna, par exemple, on en parlait l'autre jour, avec quelqu'un, tu vois, qui prenait une décision, et puis quelqu'un d'autre qui prenait des décisions, et puis à la fin, il n'y a plus personne, parce que il y a quelqu'un qui a pris une décision.
En tout cas, il y en a un des deux qui a dit bonjour en 2020, il a dit je veux faire de Riot l'entreprise de divertissement au sens large du 21e siècle, celle qui marquera le divertissement pour le 21e siècle.
Et donc, ils sont au courant que Disney existe, ou comment ça se passe?
Oui, alors je sais pas, parce que entre 2019 et 2020, alors que la production d'Arkane est déjà lancée, Riot s'est lancé dans des recrutements à tout va en fait, pour essayer de corriger les premières erreurs. Parce que en fait, au début, ce qui s'est passé, c'est que ils ont dit hey, on va prendre les frères Russo. Les frères Russo, c'est les réalisateurs de Avengers Endgame. D'accord ? Mm-hmm. Ils ont dit, eux, ils vont nous faire un long métrage League of Legends, ça va être ouf. Sauf que, ils n'étaient pas au courant de comment ça marchait Hollywood et de comment on fait en sorte qu'un film aille de A jusqu'à Z. Et donc, le projet a capoté. Et donc, ça, c'est déjà 5 millions de dollars.
Putain, on dirait vraiment Norman fait du cinéma,
c'est,
quoi.
C'est ça. Vraiment total. Riot a été.
Vous vous souvenez du film que Norman avait fait au cinéma ? Alors... C'est normal que vous en souvenez pas. Lui non plus.
Parce que, en fait, voilà, vraiment, Riot était ignorant du système hollywoodien. Hein, et donc, en fait, ils ont contracté avec différents prestataires pour ensuite annuler les contrats. Et ils ont engagé d'énormes sommes pour des projets qui ont été abandonnés. Et rapidement, à Hollywood, ils ont eu la bonne réputation de Yes Man qui signait des chèques à tour de bras pour des trucs où il y aura jamais à finir. Donc, de l'argent facile à se faire. Le truc à comprendre et qu'on peut se dire dis donc vous faites n'importe quoi, mais c'est un processus qui est vraiment hérité du monde du jeu vidéo où les développeurs montent un nombre fou de prototypes qui finiront à la poubelle avant de trouver celui qui va se transformer en réel jeu. Sauf que en fait on est dans l'industrie du cinéma et que c'est pas du tout les mêmes coûts lorsque tu veux monter un projet quand tu veux monter un projet à Hollywood et que tu veux monter un projet dans ton équipe à toi tu mets 4 développeurs sur un truc pour qu'ils essayent de faire un proto, ça te coûte beaucoup moins cher que de dire tiens on va prendre un prestataire, on va le payer des milliers de dollars et voire des millions de dollars pour qu'ils essayent de développer un truc et à la fin ça fait prout. Donc c'est pour ça qu'à un moment ils se sont dit non on va arrêter les conneries, on va embaucher des gens qui savent. D'où les arrivées de cadres de Paramount, de Disney, de HBO Max et même de Netflix pour porter l'univers de League of Legends sur les écrans.
D'accord. Et du coup, tous ces gens, quoi, chez Riot.
Chez Riot, ils ont créé un département dédié au cinéma.
Donc, d'accord. Avec des fiches de paye au SMIC, quoi.
Bien sûr.
Tout à fait.
Bien
quand
sûr.
Tu vas chercher quelqu'un de chez Netflix, en général,
Tu vas chercher
pour la beauté de l'art.
Quand tu vas chercher un cadre de Disney, de base, tu le payes au lance-pierre, évidemment.
Tout à fait, oui.
Donc voilà, le département, en fait, il s'est donné le credo de raconter l'histoire de qualité, en fait, pour rester sur l'image de marque qu'a amené Arkane, et en restant le plus fidèle possible à la licence. C'est ça, en fait, la vraie force d'Arkane, c'est que non seulement tu restes fidèle à la licence dans la construction des personnages, mais en plus tu racontes pas que des belles histoires, mais aussi tu évoques des sujets très divers, que ça soit des thèmes relativement classiques comme la pauvreté, la rébellion, les relations, la famille, etc. Mais aussi, en fait, tout simplement qu'est-ce que tu fais quand t'as pas le choix, comment s'articule aussi une société, tout simplement. Non,
qu'est-ce que l'univers? Oui,
non,
d'accord.
Simple. Oui, mais le truc, c'est que une fois de plus, un produit dérivé n'a pas à invoquer ce genre de truc, tu vois. Enfin,
ils sont allés très loin dans les sujets couverts.
Ça m'amène deux questions, tu vois, directement. C'est déjà, en tant que joueur, toi, Julien, t'avais joué au jeu. Est-ce que c'est quelque chose que le lore du jeu met en avant? Enfin, est-ce que le lore du jeu est mis en avant, d'ailleurs? On voit un petit peu les personnages, ils ont des gueules, ils ont une personnalité. Mais est-ce qu'on en sait plus en vrai?
Alors il faut savoir que le lore mis en place par Riot, il est très cohérent. Il y a un travail en fait qui est bien fait là-dessus pour essayer de maintenir la cohérence entre les différents univers. Les personnages ont des caractères qui leur correspondent. Il y a déjà d'ailleurs dans le jeu des rivalités qui sont mises en avant dans la série. Donc les personnages de la série, les protagonistes, c'est entre autres Jinx, Vi et Caitlyn. Il y en a d'autres, mais basiquement, je trouve que les séries sont très orientées autour de ces trois personnages et de leurs relations entre elles. Jinx et Vi sont sœurs et ont une rivalité à cause d'une embrouille quand elles étaient gamines. On a une relation homosexuelle qui a été montrée entre Vi et Caitlyn.
Quoi ?
Oui !
Il y a des gens, il ne faut pas leur dire ça, hein.
Et malheureusement,
ils jouent à LOL, hein. Ils sont pas là pour ça, ils sont pas là pour qu'on leur impose un agenda.
Moi, je dirais qu'un mot d'IA. Hein.
Relation qui n'est pas toute rose. Bref, ils évoquent des sujets.
Ah non, rose, c'est.
Elle est arc-en-ciel, hein.
Ah non, rose, c'est vaille. Donc, non.
Laissez-moi parler de sujet sérieux. Sortez de cette émission. Et non, en tout cas, l'univers essaye vraiment de parler de sujets, et même dans le jeu, ces sujets sont évoqués.
Okay. C'est ça ma question en fait. En tant que joueur, est-ce que vraiment tu le ressens ?
Non,
tu es au courant en fait. Est-ce que tu es obligé de le savoir ?
Honnêtement, c'est plus via les soit les cinématiques,
okay.
Mais plus certainement par rapport au lore qui est écrit sur tous les personnages, parce que justement, pour que les héros, en fait, justement, parce que c'est parce que justement l'attrait principal de League of Legends, outre le gameplay, c'est le fait d'avoir des héros qui sont très 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 caractérisés, donc le lore est très fouillé pour chacun des héros.
Oui, okay. Alors ça n'empêche pas que probablement 90% de la base de joueurs de League of Legends en ont rien à carrer.
Oui, mais c'est pour ça en fait.
Okay. Ça existe, donc il y avait déjà cette matière créer du contenu autour.
Oui. Mais là, ce qui est fort en fait, c'est qu'ils ont créé ça, un truc aussi fort, à partir de quelque chose, comme Julien le dit, qui n'est pas forcément ce qui est mis en avant en premier pour les joueurs.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, pour moi, c'est le gros côté très réussi de la série, c'est de réussir à mettre en avant tout un univers et des sujets qui ne sont pas spécialement évoqués dans le jeu. Et pour quelqu'un qui n'a jamais joué à League of Legends, eh bien, c'est plutôt réussi. On comprend les enjeux, on comprend les relations.
C'est au-delà de plutôt réussi. Moi, j'avais vaguement joué à League of Legends.
On comprend les enjeux.
Et honnêtement, j'ai plus facilement compris le premier épisode de Arcane que ma première partie de League of Legends.
Exactement.
Ouais, voilà,
et ça, par contre, pour des produits dérivés du jeu vidéo, il faut quand même souligner que c'est assez rare.
Non, c'est trop quoi. Quand je dis c'est trop, c'est très, beaucoup très trop fort. Une fois de plus, ça devrait pas exister, hein, un truc.
Ouais, donc c'est ça. En fait, ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent, même pour les gens qui ne jouent pas au jeu.
Exactement. Est-ce que ça a donné envie à des gens de s'essayer au jeu? Peut-être. Peut-être pas.
Ouais, on le saura peut-être.
On le saura plus tard.
Bah oui, comme le film Borderlands a donné envie aux gens de se rendre.
Ça, ce sera un sujet intéressant. Mais du coup, ça m'amène sur la deuxième question. Qui a écrit ça ? Parce que les scénaristes, enfin en tout cas ceux qui ont écrit ce lore dans ceux qui ont créé League of Legends, et puis ensuite derrière Arcane, la série a été écrite. Mm-hmm. Est-ce que c'est le studio Fortiche ? Est-ce que c'est Riot qui est arrivé avec tout le programme en fait ? Et ils leur ont dit animez-moi cette histoire. Est-ce qu'on sait ça, comment ça s'est... Parce que tu parles de gens de chez Netflix, de chez Paramount. Est-ce
oula,
que ces
non,
gens-là
non,
ont
non,
eu...
Non, 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 non. Oula, ça, c'était... Non, ça, c'était pour... bonjour, on appelle Riot. Maintenant, on a fait Arcane. On a des grosses burnes et on va tout niquer.
Donc, c'était
pour
ça. Après.
C'est pour la saison 2 et la suite.
C'était pour après, d'accord.
Ok, d'accord. Parce que du coup, ça, c'est visiblement une aussi bonne réussite d'avoir réussi à écrire quelque chose de correct. Parce que même si visuellement... C'est assez extraordinaire, effectivement, visuellement, c'est très très réussi. Le scénario ne devait pas non plus.
Oui, en fait, c'est fait par.
Devait valoir le coup aussi.
Oui, voilà, en fait, c'est fait par un des co-créateurs d'Arcane qui s'appelle Christian Linke. Le deuxième, j'ai malheureusement mangé son nom, mais c'est un ancien, en fait, de la team de la communication à la base de Riot, qui était extrêmement fan du lore, en fait, et les deux se sont associés pour. Ils n'ont pas écrit toute la série, mais ils ont quand même donné l'impulsion pour... et tout le monde s'accorde à dire, en fait, ils ont donné l'impulsion pour les trois quarts des thématiques de la série. Après, l'avantage, c'est que justement, tout le monde a trouvé, en tout cas tous les créatifs qui ont participé, en fait, ont trouvé le truc tellement cool qu'ils ont donné, entre guillemets, un peu le meilleur d'eux-mêmes. En fait, je donne un équivalent, par exemple, c'est... peut-être vous connaissez la série animée qui s'appelle Avatar. Je parle pas
Personnellement, non, mais. Okay.
C'est une série animée, en fait, et qui est excellente d'un point de vue écriture, d'un point de vue lore, qui est très abouti. Mm-hmm. Et c'est un truc qui a été fait par Nickelodeon. Nickelodeon.
Oui, on les connaît pour les petits, pour, on va dire les dessins animés pour enfants de moyenne qualité.
Au mieux ils font du caca arc-en-ciel, d'accord.
C'est pas eux qui faisaient, c'est pas eux qui faisaient Oggy et les cafards ou genre le truc. Hein.
Non, ça c'est français, monsieur.
Oui, c'est pour ça. Oui, mais après, regarde. La Riot n'est pas spécialement français, League of Legends non plus, Fortiche.
Non, pour le coup, là tu parles de Xylam qui est une boîte.
Ok, c'est plus intéressant.
L'IRN.
Tu vois que j'avais raison jusqu'au bout.
Tout nous ramène à Yves.
Exactement.
En fait, le principe, c'est que normalement, on se dit une série en fait qui parle aussi bien de différentes cultures et qui parle justement du fait que lorsqu'on essaye d'imposer sa culture à d'autres, ça ne peut pas fonctionner. Alors que qui est produite aux États-Unis au moment où Bush envahit l'Afghanistan. Ça peut pas exister normalement et qui est produite là-bas par c'est un miracle, enfin ça devrait pas, une fois de plus c'est le genre de truc, ça devrait pas exister dans les années 2000, surtout qu'on est dans les années à base de non, il y a des méchants, il y a des terroristes, faut les fumer, point. Et c'était même et je dis pas que ça, et ça se ressentait même dans des productions modestes, même à destination des enfants, le côté très manichéen. Et là quelque chose de beaucoup plus nuancé avec où les gens font très très attention à l'origine culturelle de chaque peuplade et à l'intention que donne la série, c'était quasiment impossible. Et Arcane, c'est un peu ce principe là, c'est-à-dire que c'est un produit dérivé d'un jeu vidéo où l'immense majorité des joueurs est gentiment considéré comme une fausse à purin, et qui arrive à faire une des œuvres les plus intéressantes et les plus fines en termes d'animation de ces dernières années.
C'est un miracle, tu vois. Comme quoi, quand on fout la paix aux gens qui aiment bien un univers, il en sort des trucs corrects.
Et donc, justement, ce qui était prévu, c'était de continuer sur cette lancée, en tout cas du côté du pôle cinéma. Sauf que, en interne, ils étaient pas vraiment sur ce sur ce plan-là, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de dissensions entre les équipes. En gros, d'un côté, il y avait Nicolo Laurent qui voulait apporter League of Legends sur les écrans, et les conseils d'administration en interne, ils étaient beaucoup plus tendus en se disant qu'il y avait beaucoup trop d'argent qui partait là-dedans et pas assez vers les jeux vidéo, et que notre fausse à purin, elle est plus intéressée par les jeux vidéo que par le cinéma.
C'est-à-dire qu'il serait peut-être, malgré les récompenses entre guillemets qui ont accompagné la série, ça s'est pas forcément matérialisé en pognon.
Ça s'est matérialisé en pognon, mais
pas assez.
Beaucoup moins que par que.
Et beaucoup moins que prévu, beaucoup moins qu'espéré, ou que nécessaire pour rentabiliser le truc.
En fait, c'est ça la problème. Pourquoi on les a laissés continuer? C'est parce que il y a pas de précédent.
Alors,
on les a laissés continuer parce qu'il n'y a pas de précédent, en fait.
Que caution économique de cette émission, il faut savoir que la communication a toujours été, notamment dans les grandes entreprises, un budget poubelle. C'est un budget qu'on alloue quand il y a des bénéfices, on convertit les bénéfices en investissement pour l'image, parce que c'est toujours mieux que de payer des impôts. Basiquement, c'est comme ça en France, c'est comme ça dans tous les autres pays. Et il se trouve qu'à la période où la saison 1 d'Arcane fait un carton incroyable,
2021,
on a une industrie du jeu vidéo qui affiche des croissances à deux chiffres, des investisseurs qui disent « j'ai un gros chéquier ».
Et je sais pas comment faire.
Et j'hésiterai pas à m'en servir. Donc, il y a eu des millions, mais vraiment, des millions qui ont été donnés à tous les studios, des investissements qui ont été faits par des boîtes qui ne pouvaient pas investir leur argent ailleurs. Mmh. Et on rappelle que l'industrie du jeu vidéo, c'est 10 fois plus de revenus annuels que l'industrie du cinéma.
Oui, non,
c'est
mais.
C'est colossal.
Oui, non, mais ça, c'est.
Et il y a des gens qui s'en sont rendus compte. Donc, du coup, on va dire que Riot, piloté par le géant chinois qui est déjà très, très présent dans l'industrie du jeu vidéo Tencent, c'est vraiment à vraiment injecter de la thune. Par contre, c'est des financiers. Et il se trouve que depuis 2 ans, maintenant.
Alors, ça gueulait déjà dès 2020.
Ça gueulait déjà dès 2020 parce qu'il y a des gens qui ont dit ça va pas durer. Vraiment. Quand les gens vont pouvoir ressortir de chez eux, vous allez voir que le jeu vidéo, en fait, ça les intéresse pas tant que ça.
Et on a, c'était un peu le thème de beaucoup de nos émissions depuis le début de l'année. Effectivement, voilà. Les conséquences, on les a vues avec les licenciements en masse. Mais pour revenir sur.
On parle de tout ça, voilà. Ouais. Et en gros, il se trouve que les vannes, maintenant, il y a des financiers qui disent. Alors, c'était vachement bien ce que vous faisiez quand il y avait de l'argent, mais là, maintenant, il n'y en a plus. Donc, les 300 millions pour faire la série Arcane, c'est vachement bien, mais on ne les a plus, en fait. Donc, on va les mettre à un autre endroit.
Alors, le truc, c'est qu'effectivement, dès 2020, en fait, tu avais déjà une bonne partie des têtes pensantes de l'industrie et même une part des employés et des fans qui disait ok, Arcane c'est cool, mais faire des films League of Legends ou d'autres trucs comme ça, calmez-vous quoi. Nous on veut pexer, on veut du jeu, on est là pour jouer à des jeux vidéo quoi. Et d'ailleurs en fait même le climat s'est vraiment dégradé en interne et s'abîmait de plus en plus, qu'il y avait des projets de films et des projets de séries qui étaient annulés, repoussés, et que tout ça on voyait que ça coûtait de plus en plus d'argent. Et que au final, Nicolo Laurent, en fait, il a tenu la barre pendant pas mal de temps, malgré des dépenses monstrueuses dans la création d'Arcane, mais grâce au succès de la série. Mais le truc, c'est que dans les couloirs, vraiment, c'était dans les couloirs, dans les conseils d'administration, ça devenait intenable jusqu'au moment où, finalement, trop critiqué pour la mauvaise gestion des budgets de production. Et pour le fait d'aller trop loin dans le développement de séries et de films, Nicolas Laurent, il a fini par jeter l'éponge en mai 2023 et il a quitté l'entreprise. Il a été remplacé au poste de co-dirigeant par un dénommé Dylan Jadeja, et qui s'est déclaré, lui, qu'il n'était pas hostile aux productions pour le petit écran. Comprendre, quand il est arrivé en 2023, on avait dépensé trop d'argent sur Arcane deuxième saison pour arrêter maintenant. Mmh. Mais par contre, il a dit qu'il voulait vraiment se recentrer sur les projets de Riot autour du jeu vidéo.
On m'a embauché pour boucler le budget.
Voilà. Donc, vu qu'il voulait se concentrer sur le jeu vidéo, le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a fermé le label Riot Forge, qui éditait des jeux vidéo.
Alors, je pense que ça voulait dire on va se concentrer sur ce qu'il rapporte.
C'est ça. Donc,
c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il n'a pas laissé la chance aux produits, en fait.
Ah non, non.
C'était des petits projets avec des petits jeux, enfin des petits studios, etc.
Il n'y a plus d'argent.
Il y a notamment.
Les jeux sont sortis, il y en a certains qui ont eu des vrais succès.
Il y a notamment il y a un Metroidvania sur le personnage d'Echo qui est vraiment cool.
Ouais, par exemple.
Qui est vraiment cool avec en plus un côté très dynamique, mais imagine Braid mais en ultra dynamique, donc c'était vraiment plutôt intéressant. À chaque fois, c'était des productions AA quoi.
Mmh. Un petit mot pour Song of Nunu ?
Oui, j'allais en parler.
Transition.
J'allais en parler.
Ça tombe bien, il te reste 5 minutes.
J'allais en parler. alors je peux faire 5 minutes.
Je t'en prie.
Le truc, c'est que donc Riot Forge éditait des jeux d'envergure moindre sur les différents personnages de League of Legends. La fermeture de Riot Forge aura été fatale au studio espagnol Tequila Works, donc qui a fait Deadline, Sexy Brutal et Rime, que j'avais beaucoup aimé personnellement.
Et qui a fermé il y a 2 jours, 3 jours.
Voilà. Le 13 en fait, donc hier.
Ah oui, donc.
Il bénéficiait à l'époque d'un contrat d'édition chez Riot Forge pour lequel ils avaient fait Song of Nunu. Un jeu fort sympathique en plus. Et en fait, la société, elle a réaffirmé que le jeu vidéo, c'est sa priorité absolue. Mais surtout, elle se concentre sur ses licences fortes, League of Legends et Valorant. Et on a compris, quand ils ont dit League of Legends et Valorant, c'est que Legend of Runeterra est un petit peu sur la sellette aussi. Parce que ça gagne pas tant d'argent que ça, cette histoire.
Non, même s'ils avaient dit, on va quand même continuer à faire des trucs dedans. Enfin, ils avaient dit, on va mettre du contenu Arcane spécifique par rapport à la sortie de la saison 2.
Oui, et puis sorti le 2KTO, là, je sais plus comment ça s'appelle.
Complètement oublié que ce jeu existait.
Mais bon, ça sent pas.
Je sais qu'il existe parce que Yvan Le Fou y a joué.
Mais ça sent, pas extrêmement bon pour Runeterra de toute
façon. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, il était dans la discussion quand ils ont effectivement sorti toute une série de petites conneries pour accompagner la saison 2.
Le conseil d'administration a dû aussi voir la petite ligne de budget pour ce jeu et a dû se dire, ah tiens, ça existe ça.
Oui, c'est ça, ils ont dû se rappeler, tiens.
Ça devrait être.
Il y a des gens qui y jouent.
Ça, c'est le premier truc qu'il a fait, Dylan Jadeja. Et puis après, il a dit, on est en janvier 2024, qu'est-ce qui serait cool de faire? Et si on virait 530 personnes? Parce que bon, ça coûte de l'argent tout ça.
Je pense que surtout parce que c'était la mode, hein. Les autres ils font pareil.
Oui, voilà.
Hein?
Oui, et puis
un de plus, un de moins.
C'est ça, tout le monde fait pareil autour de nous. Ouais, voilà. Pareil. Même et ceux qui gagnent beaucoup.
Et donc, forcément, ils ont viré l'équivalent de 10 personnes, de 10% de l'effectif total de la firme. Et donc,
ah, je pensais plus, en vrai.
Non, mais faut pas oublier
c'est
le.
C'est gros Riot.
Non, mais faut pas oublier. Je te rappelle que justement, rien que sur. Ben, déjà, avant Riot, enfin, avant 2019, il n'y avait pas de département cinéma. Hein. Donc, forcément.
Oui, mais tu m'as dit, ils sont 4. Ils ont recruté 4 gars.
Oui, bien sûr, 4. Ouais, t'as raison. Ouais. Donc, non, ça a embauché beaucoup. Donc, forcément, ils ont l'effectif de la boîte a quasiment doublé en quelques temps. Donc,
d'accord.
Forcément.
Tout ça pour ne pas sortir de film, en vrai.
Non. Et qui sortira, a priori, jamais. Parce que, en fait, dans ce contexte, c'est difficile de savoir s'il y a d'autres projets de films, de séries qui verront le jour, sachant que a priori il y a un film d'animation League of Legends qui sera en gestation chez le co-créateur de Arkane, donc Christian Linke dont je te parlais tout à l'heure, mais le projet il semble au point mort depuis des mois. Voilà, donc en plus le truc Arkane a coûté 300 millions de dollars, même si ça marche du feu de Dieu, pour rembourser des frais pareils il va falloir compter sur les joueurs et qu'ils achètent plein de skins et plein de produits dérivés pour arriver à rentrer dans leurs frais.
C'est pour ça que je parle en général de budget poubelle, parce que cet investissement, c'est impossible de savoir quand est-ce qu'il sera rentabilisé.
Ouais, mais justement,
c'est très dur à quantifier.
Bah, c'est pour ça que, vu le coût, le développement chaotique et le coût exorbitant, la saison 2, elle a pu être terminée. Elle est diffusée là depuis le 9 et puis là par morceaux jusqu'à fin novembre.
À coup de 3 épisodes, non, c'est ça ?
À coup de 3 épisodes par 3 épisodes.
Voilà, 3 épisodes 3, 2. Ou 4 semaines, je crois.
Ouais, non, c'est 3, pardon. C'est,
d'accord, donc, parce qu'on parle de 300 millions en tout pour 2 saisons de 8 épisodes chacun.
C'est ça.
Ok, donc effectivement, si on ramène en plus à l'épisode, ça commence à faire peur.
Ouais, voilà. Et le truc, c'est, par contre, clairement, Riot a affirmé qu'il n'y aura jamais de suite.
D'accord.
Mort.
Ils ont dit non. C'est
Okay.
Donc d'ailleurs ça, je pense que ça a aussi joué. Faudra voir à quoi ressemble la fin, mais je pense que la fin sera beaucoup plus définitive que ce qui était prévu à la base.
Forcément. Ouais. Et puis bah du coup on souhaite aussi que le studio Fortiche se relève de ça.
Oh alors se relève. Ils ont bien été payés.
Oui, mais
le studio a bien été payé. Par contre, il faut voir les conditions dans lesquelles la saison 2 en particulier s'est faite, et ça a été très 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 compliqué. Il y a des gens vraiment qui sont partis de chez Fortiche, et des gens très importants de chez Fortiche qui sont partis parce que justement, ils ont mis beaucoup plus de pression sur cette deuxième. On sait pas ce que ça donne du côté créatif, parce que j'ai pas encore vu les épisodes en question, mais de ce que j'ai compris, ça a été plus compliqué.
Ça ne transparaît pas à l'écran.
Ah mais
j'ai pas vu spécialement de retour de Fortiche. Il faudra attendre que la saison 2 sorte complètement. Faudra attendre également quelques mois avant que des gens commencent à parler.
Alors le truc, disons que je connais des gens dans le milieu de l'animation, et dans le milieu de l'animation, les choses, il y a pas tant de monde en fait en France dans le monde de l'animation, même si on dit ouais, il y a plein de trucs. Il n'y a pas tant de monde que ça, et les choses se savent assez vite, et effectivement ça a été assez compliqué. C'est aussi comme ça qu'on a su par exemple que le deuxième Spider-Man, Spider-Verse, il est incroyable visuellement, mais oui, clairement il y a des gens qui se sont littéralement tués au travail, hein, donc
Du coup il y aura un épisode filler pour savoir ce qu'il en est vraiment.
Je pense pas, mais on verra mais après c'est comme tout, hein, tu peux avoir des conditions dégueulasses et finalement faire des choses correctes.
Alors, on a t'es à deux doigts de justifier ça, hein. C'est le dernier qui a fait ça, c'est Julien Chies, hein. Fais gaffe quand même.
Oui, alors en fait le truc, je suis pas comme Julien Chies, parce que moi je pense réellement que il y a un ras-le-bol et que les éditeurs devraient
alors tu sors de cette pièce. Tu sors de cette émission.
Transition parfaite pour changer de sujet, parce qu'il faut lui enlever son micro.
Oui, vas-y, je pense.
Vas-y, parle-nous de gens de violence routière.
Alors, donc oui, effectivement, la transition est incroyable. La transition est vraiment, mais alors, elle est passée toute seule. Du coup, on avait reçu ici notre ami Paul, de La Science Entre en Jeu, organisateur de Game Jam, sur l'histoire. Principalement, mais du coup, donc le collectif de créateurs dont il fait partie, et également de chercheurs, puisqu'il y a quand même une composante scientifique un petit peu derrière tout ça. Créer d'autres game jams avec d'autres sujets, et notamment donc qui vient de se terminer, qui vient d'avoir lieu, a eu lieu donc ce qu'ils ont appelé le Ludocamp 2024, une résidence de création de jeux vidéo par La Science entre en jeu et la Ligue contre la violence routière, qui s'est donc déroulée du 21 au 26 octobre à Avignon. Donc à Avignon, pendant quelques jours, ils ont réuni un certain nombre de créateurs, enfin d'artistes, de développeurs, et également donc de personnes venant donc de la Ligue contre la violence routière, pour développer des jeux sur la thématique, évidemment, du transport et de la sécurité routière. Donc voilà, donc c'était un ludocamp gratuit où ils ont hébergé les gens, etc., où il y a eu toute une série de parties de création, de parties voilà, d'échanges sur le sujet. Il y a eu également des conférences pendant ce moment-là pour présenter certaines thématiques finalement et certaines problématiques qui sont rencontrées par la Ligue contre la violence routière. Et donc ça a donné 4 jeux. Ça a donné 4 jeux, je vais...
T'as pu y jouer ou pas ?
Ouais, j'ai joué aux 4.
Ok.
J'ai joué aux 4.
Donne-nous le meilleur d'abord.
Le meilleur ? Alors, le meilleur pour moi, c'est celui Frogger. Qui s'appellera...
Moi, j'allais dire Carmageddon.
Alors, si vous êtes là pour pourrir le... Non, effectivement, j'aime beaucoup les références. Hein, j'aime beaucoup les références. GTA aussi aurait été une bonne réponse. Non, je vais parler d'un banal accident.
Okay.
Un banal accident, donc c'est un jeu d'enquête qui suit le parcours. Pardon, j'avais le truc. Hein, voilà, qui suit le parcours de victime suite à une collision, enfin suite à un accident où il y a eu des victimes et notamment un accident mortel. Et donc voilà, c'est une histoire fictive qui est racontée, mais inspirée par des différents témoignages. En fait, ils ont fait plus ou moins un amalgame d'histoires vraies, de vraies réactions, de vrais compte rendu de la police, de vraies réactions, de vrais résultats de procès.
Il se présente comment, le jeu ?
Alors, il se présente sous la forme d'un petit jeu d'enquête, dans le sens où tu vas, un petit peu comme dans un visual novel point and click, tu vas aller discuter avec des gens, aborder des sujets, et qui vont te débloquer d'autres sujets, d'autres personnes à aller voir, d'autres qui vont parfois te donner des documents, comme des rapports de... voilà, le résultat du procès, le rapport de la police, en fait, de sur l'accident, etc.
Parce que, je sais pas pourquoi, mais quand t'as commencé à parler de comment ça a été fait, ça me faisait vraiment penser à comment avait été fait Enterre-moi mon amour, par exemple.
Alors je vois pourquoi tu dis ça et je vais peut-être pas aller jusqu'au bout là-dedans parce que ça reste effectivement un petit jeu qui a été développé en quelques jours.
Ok.
Donc au niveau de l'ambition et de la profondeur du contenu, ils sont déjà allés loin, je trouve, même justement par rapport au contexte, par rapport aux conditions dans lesquelles il a été créé. Et donc en fait on a voilà la réaction de la police extrêmement mécanique d'une certaine façon et pas du tout empathique, la réaction de la mère de la victime. Qui a été informé par un élu qui était, parce que ça se passe dans un petit village, donc c'est le maire du village qui vient lui apprendre la nouvelle et de façon qui manquait énormément de tact en fait dans la façon de le faire. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses, et puis il y a évidemment le suivi, tout simplement. Il y a un moment où est mentionné le fait que à cet endroit précisément, c'est le 5e ou 6e accident qu'il y a eu dans les dernières années. Ça pose plein de questions en fait. Ça pose plein de questions sur comment est-ce qu'on gère ça au niveau des autorités, au niveau de la sécurité routière, et comment est-ce qu'on gère les victimes. Parce qu'en fait, on se retrouvait donc avec une personne qui avait causé l'accident et qui donc était responsable du décès de quelqu'un. T'avais la personne qui avait perdu voilà son compagnon suite à cet accident, donc qui réagissait, qui en voulait à mort à la personne qui était coupable d'avoir causé l'accident. Qui en voulait à tout le monde, qui en voulait à la police, qui en voulait d'avoir traité ça comme ça, et d'avoir vraiment été pas du tout dans l'accompagnement des victimes. Et sur le coup, je me suis dit, effectivement, voilà, ça pose énormément de questions. Sur le suivi, je disais, sur la dangerosité des routes, sur la formation des élus, ou en tout cas des personnes chargées d'informer les proches des victimes. Je trouvais que la police avait un rôle très négatif et caricatural, sur le moment, dans la façon vraiment dont c'était décrit. On avait peu d'infos sur le déroulement du procès, sur le résultat finalement qui était simplement donné comme ça. Et évidemment le format hein, qui limitait la possibilité d'approfondir. Et en fait, j'ai évoqué ça, j'en ai parlé sur le parce que tous les jeux donc de cette jam, enfin de ce Ludocamp, sont disponibles sur itch.io.
Ok.
Donc c'est des jeux gratuits, certains jouables sur navigateur, d'autres à télécharger.
Oui, et sur itch.io, en fait, il y a un module en fait où on peut poser des questions et des commentaires.
En fait,
etc.
c'est simplement des commentaires, c'est comme les reviews, ce genre de choses. Oui, et du coup, voilà, j'ai exprimé un peu de choses.
Sauf que c'est un vrai espace d'échange, contrairement à Steam, hein, c'est un vrai.
Ouais, voilà. Où souvent, effectivement, les créateurs viennent communiquer. Et du coup, voilà, j'ai posé quasiment les phrases que je viens de prononcer, et j'ai eu une réponse aujourd'hui même. Et effectivement, sur les questions du manque de tact, de suivi, de dangerosité des routes, etc. Et je trouvais que on n'allait pas, enfin que le jeu ne présentait pas grand chose. Et en vrai, la réponse des personnes, donc il y a une des personnes qui a fait le jeu, qui est directement à la ligue de contre les violences routières, qui m'a répondu que c'est parce que réellement presque rien n'est fait. Au niveau des élus, au niveau des policiers, au niveau de la formation des gens pour informer les victimes et les proches des victimes, la volonté politique n'existe pas.
Je suis pas très étonné là-dessus.
Moi non plus, mais je trouvais ça presque.
Ça ressemble à du vécu.
C'est clairement du vécu.
Les
expériences viennent du vécu.
Oui, ça paraît vraiment très très banal malheureusement.
Et c'est vrai. Et tu vois la réponse, elle est très claire de la personne en question. J'y révèle. Il doit être cité dans les créateurs, Julien Revel qui est dans la partie programmation visiblement, qui disait sur la question premier jet du scénario, nous avons aussi l'impression d'avoir forcé le trait sur la police, mais les militants de l'association de la Ligue contre les violences routières qui accompagnaient l'événement nous ont fait parvenir un PV de police complet d'une affaire et nous avons pu nous mettre en relation avec une personne ayant perdu un proche dans un accident et ils ont bien voulu t'éloigner et en vrai les situations réelles sont infiniment plus choquantes et caricaturales que ce qu'on raconte dans le jeu.
Oui,
donc au final voilà, moi j'étais presque choqué, je trouvais ça presque enfantin entre guillemets d'une certaine façon de le mettre aussi de façon aussi caricaturale et apparemment c'est dans la réalité.
Je pense que ça m'étonne pas à cause du côté très enfin le nombre de morts sur la route en France il y en a plus d'un par jour, donc et quand je dis plus d'un, c'est parce qu'il y en a plus de 10.
C'est massif.
Et donc en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a un côté usine, quoi. C'est du genre,
banal.
T'as quoi aujourd'hui? Ah oui, faut que j'annonce un décès sur la route.
C'est devenu un fait divers. Ouais. Et il est bon de rappeler que c'est déjà vachement mieux qu'il y a 10 ans. Mmh. C'est dire si c'était catastrophique. Il y a 10 ans.
Et du coup, c'est un petit peu le message qui va avec tous les jeux en tant que tel. Il y en a un qui s'appelle My Dad's Car, où en fait, ça raconte un jeune qui grandit dans la voiture de son père, qui conduit un petit peu n'importe comment, qui regarde le téléphone pendant qu'il conduit, qui s'engueule avec sa femme pendant qu'il conduit, enfin bref, qui a des comportements dangereux sur la route, qui lui, ensuite, il grandit, il a l'âge d'avoir une voiture, du coup, il a les mêmes comportements. Et bizarrement, ça se finit pas forcément très bien. Autre jeu qui m'a beaucoup intéressé dans le concept, celui-là est de Paul directement. Enfin, il est directement dans l'équipe créative, qui s'appelle Touche pas à mon intox. Donc, on est clairement dans la parodie ciblée. C'est-à-dire qu'on va taper sur Touche pas à mon poste, on va taper sur l'heure des pros avec Pascal Pro, on va taper sur toutes ces thématiques-là, parce qu'en fait, on va jouer un militant. Qui va effectivement défendre, militer contre évidemment les violences routières, mais c'est notamment l'importance qu'on donne à la voiture par rapport aux cyclistes, par exemple, dans l'espace public et dans les messages et dans les médias, où on va rappeler très facilement que les cyclistes ils roulent n'importe comment, alors que c'est pas la cause principale des décès sur la route. Bref, et du coup, on va devoir au début choisir un certain nombre de réponses, en fait, s'armer avec des statistiques. Si vous voulez, des faits, pour pouvoir répondre aux idées reçues que balancera Pascal Pro, son équivalent parodique, dans le truc pour pouvoir
c'est,
le.
C'est les combats d'insultes de Monkey Island, ton truc.
Ouais, c'est un petit peu l'idée, ouais.
C'est-à-dire qu'on Paul est toujours coutumier de ce. C'est pas sa première expérience, il en a déjà fait plusieurs.
Ouais.
Il est coutumier de la satire politique et sociétale,
et
d'utiliser le jeu vidéo comme un moyen pédagogique pour faire passer des messages. Bref,
et des faits, en fait. Et notamment dans ce cas-là, c'est des faits.
C'est un usage très intelligent du jeu vidéo.
Et c'est un sujet qui l'intéresse et qui lui tient à cœur, la sécurité routière et notamment la sécurité des cyclistes. Il est très engagé là-dedans. Mmh. Et du coup, ça m'étonne pas que ça ressorte. Alors, dans le jeu, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué parce qu'en fait, on a vite fait une idée du thème dans lequel on va devoir répondre. Donc, on doit choisir dans un certain nombre d'informations, dont notamment toute une série d'informations qui sont fausses. enfin qui sont en tout cas celles qui sont pas fausses, mais extrêmement orientées, mais dans le mauvais sens, entre guillemets, de celui que le message qu'on veut faire passer. Donc voilà, Touche pas à mon intox, très, très, très sympathique également. Et puis, donc My Dad's Car, qui est plus un visual novel, qui va nous raconter plutôt une histoire, mais une histoire un petit peu trop classique, en fait, de comportements dangereux qui découlent d'un apprentissage, en fait, d'un exemple. Et puis, le dernier, c'est Boulettes de papier, où on est un pigiste qui doit écrire sur un fait divers. Celui-là, bon, on sent qu'ils n'ont pas pu aller au bout de ce qu'ils voulaient faire. Mais l'idée était intéressante, en fait, de se placer en tant que journaliste. Et donc, de la façon dont on va aborder ces sujets-là en tant que journaliste, et comment est-ce qu'on va en parler dans les médias. Et il y a plusieurs façons, la façon analytique, la façon fait divers, on va dire, sensationnaliste, etc. Et l'impact réel que ça a sur la façon dont on va passer un message, en fait, qui finalement se rapproche de Touche pas à mon intox, dans l'idée. Donc voilà, un petit Ludocamp, une petite game jam avec un sujet intéressant que je conseille d'aller voir pour l'idée derrière.
On fera peut-être un article,
projet.
Tiens. Ouais. Ça m'intéresse aussi.
Ouais. Et ben, facile à trouver sur itch.io si vous cherchez Ludocamp 2024, Avignon, je ne sais plus exactement les termes, mais.
Eh ben merci Romain d'avoir abordé un sujet beaucoup trop banal, malheureusement.
Ouais, qui méritait encore plus de place.
Mais en tout cas, très, très intéressant la manière dont ça a été abordé. Merci Julien.
Bah oui, merci. Ouais.
Avec plaisir.
On te retrouve où, quoi, quand, comment ?
Sur Twitch. Vous pouvez me retrouver sur Twitch ou sur Internet, de manière générale, sous le label Presse F5.
Ouais.
Un collectif de streamers et de streameuses qui font du contenu divers et varié, mais surtout autour du jeu vidéo indépendant.
Très bien. Et en tout cas, toujours un plaisir de t'avoir, même si je trouve que tu as des techs absolument impossibles. Genre,
et scandaleuses.
Genre parler d'économie, quoi.
Ouais, c'est ça. Ah, et puis d'un point de vue, tu sais.
Je suis la caution de droite, désolé.
Non, voilà. Non,
normalement, tu rentres pas dans la pièce.
Non, mais c'est scandaleux. La dernière fois, le studio a brûlé.
Je vous rappelle que j'héberge votre podcast.
Ouais. Alors,
d'ailleurs,
justement, là-dessus...
On en reparlera quand on les aura uploadés.
Ouais, voilà, c'est ça.
On va vous souhaiter une bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée, tout le monde.
Et on se voit la semaine prochaine.
Yes, à tout bientôt.
Ciao. Salut.